premier sur l'info, l'info locale.
Il est 7h30, les titres de votre journal local présenté par Wallis Glaise. Bonjour Wallis.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous. 120 mètres cubes de fret médical et 25 Polynésiens évacuanés et accompagnateurs sont arrivés hier matin par le deuxième vol de la continuité territoriale. Les détails de ce deuxième vol dans ce journal. 30 logements du cercle mixte interarmé de Tahiti de Pierret ont été mis à disposition du pays par l'État pour confiner les personnes à risque ou tester positives. 42 personnes pourront y être hébergées. Des masques en tissu locaux fiables et gratuits, c'est l'idée développée depuis début avril par deux professionnels de santé à l'origine du collectif Masques Solidaires de Tahiti. Elles ont déjà été rejointes par une soixantaine de couturières et bientôt par plusieurs dizaines de bénévoles issus de la plateforme mise en place par le pays. Radio 1 les a rencontrés.
57 cas de coronavirus, 2026 tests, le dépistage s'intensifie, pas l'épidémie.
Aucun nouveau cas de coronavirus n'a été détecté au Fénois, annoncé la cellule de crise sanitaire du pays hier. Et les autorités comptent toujours 57 cas confirmés en Polynésie française. Au total, 2026 personnes ont été testées depuis le 1er mars. Comme le précisent les autorités, 36 des 57 personnes contaminées sont sorties de leur isolement strict, car elles ne présentaient plus de symptômes depuis plus de 14 jours. Seules 21 personnes positives au Covid-19 restent aujourd'hui sous surveillance.
Continuité territoriale, pour l'État, le fret médical doit rester la priorité.
Le Haut-Commissariat avait invité la presse hier matin à l'aéroport de Tahiti-Faa où ont été triés les quelques 120 mètres cubes de fret arrivés par ce second vol de continuité territoriale. À son bord, notamment 1300 kits de prélèvement commandés par l'Institut Mallardé afin de continuer le dépistage de la population ainsi que des équipements de protection du matériel issu de la réserve d'État, insiste Eric Requet, secrétaire général du Haut-Commissariat.
Dans cette réserve nationale d'État, près de 1300 kits de prélèvement pour tests Covid-19, ce qui va permettre de poursuivre la politique actuelle du ministère de la Santé de dépistage systématique à raison de 150 tests par jour. Il y a également 52 000 masques FFP2 et il y aura également 10 respirateurs pour réanimation, respiration artificielle, portable, c'est-à-dire qui seront très utiles pour être déployés le cas échéant dans les archipels, qui arriveront samedi soir avec l'avion stratégique A400M.
Pour la première fois depuis la suspension du trafic commercial, ce Paris-Tahiti emportait aussi des passagers. 25 Polynésiens évacués pour raisons sanitaires en métropole et leurs accompagnants qui attendaient leur retour depuis déjà plusieurs semaines. Comme le précise Eric Requet, tous n'ont pas pu embarquer. 6 ont été testés positifs au Covid-19 et devront donc rester confinés en métropole.
Donc le deuxième vol de continuité territoriale qui a atterri cette nuit a ramené bien sûr 25 passagers, des résidents polynésiens qui avaient été évacués pour raisons médicales en métropole, qui ont terminé leur traitement. Il doit y en avoir une trentaine, une quarantaine encore, ça doit être défini. Vous savez que parmi ceux qui devaient revenir cette nuit, il y en a 6 qui ont été dépistés positifs au Covid-19, donc qui sont restés en métropole. À chaque fois, les précautions sanitaires seront prises avec des dépistages systématiques avant l'embarquement. Bien sûr, ils sont aussi confinés en métropole.
Entre 300 et 400 autres résidents polynésiens bloqués en métropole à la suite attendent eux aussi leur retour. Jacques Rénal, le ministre de la Santé, avait expliqué en début de semaine qu'ils commenceraient à être répatriés dès la prochaine rotation à raison de 100 à 110 sièges par avion. Eric Requet est pourtant plus réservé. La priorité, c'est le fret médical.
Pour nous, la priorité sur les vols de continuité territoriale, c'est le fret médical et pharmaceutique, je l'ai dit. C'est pour soigner notre population compte tenu de l'isolement et l'éloignement géographique de la Polynésie. C'est bien plus important de pouvoir soigner notre population des autres pathologies, parce que pendant ce temps-là, il y a toujours des gens qui sont malades du diabète ou d'autres pathologies, qu'on peut prendre en considération aussi les résidents qui sont en métropole, mais ça va être au cas par cas. L'important, pour nous, la priorité, c'est de ramener le fret médical et pharmaceutique. Si on arrive à dégager des places, ensuite, on pourra envisager le retour des résidents qui sont actuellement bloqués en métropole.
D'ici le mois de juin, devraient aussi s'ajouter plusieurs centaines d'étudiants polynésiens désireux de rentrer au pays, sans compter les plusieurs centaines à quelques milliers de fonctionnaires d'État qui doivent être remplacés dans les prochains mois. Et tous ces sujets sont en discussion entre l'État et le pays.
Pour contourner la pénurie, soignantes et couturières multiplient les masques solidaires de Tahiti.
Une épidémie toujours menaçante, des patients en demande, mais pas de protection à leur offrir. Aucun doute pour le docteur Nanetida Nwanesengsi. Si les masques manquent aux Fénois, il faut en fabriquer. Mais ce sera avec Céline Béguet, infirmière libérale, qui l'aidera à concrétiser cette action. Ensemble, les deux soignantes lancent la page Facebook Masques solidaires de Tahiti, au travers de laquelle des couturières bénévoles peuvent aider à la diffusion de masques gratuits. Écoutez le docteur Nanet au micro de Charles Irénée.
L'idée de fournir des masques en tissu à la population a émergé à partir de plusieurs constats. Le premier, c'est que le port du masque a enfin été reconnu comme un geste barrière par les autorités de santé. Or, les masques chirurgicaux jetables ne sont pas disponibles à la vente pour le grand public. Ils sont réservés en priorité au personnel soignant. Donc, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait respecter le port du masque quand on ne peut pas s'en fournir. La solution qu'on a proposée, c'était d'offrir des masques alternatifs, donc des masques en tissu. Et de là est née notre organisation Masque Solidaire de Tahiti.
Deux couches de tissu en coton. Après avoir arrêté leur choix, Céline et Nanet vont de magasin en magasin pour acheter le matériel adapté. Aidés par plusieurs sponsors, les couturiers et couturières intéressés recevront directement des kits composés de 6 carrés de tissu et leur élastique. Je vous propose d'écouter justement Céline Béguet.
Donc on s'est attaché à sélectionner la catégorie de textile qui offrait la meilleure filtration, du moment elle était doublée, une filtration à savoir de 3 microns. Donc c'est du tissu qui fait 120 à 150 grammes par mètre carré. Nous l'avons pesé chez les commerçants qui nous ont vendu le tissu. Nous l'avons sélectionné, nous les avons taillés en carré de 20 par 20 comme le recommandait la FNOR. Nous avons ajouté des élastiques tant que nous en avons et nous fournissons des kits prêts à la confection pour nos couturières. Ces kits ont été préalablement lavés, repassés et conditionnée pour qu'elle puisse faire 6 masques tout en sécurité.
La cellule de crise sanitaire du gouvernement qui a publiquement salué le projet a mis les deux initiatrices en contact avec de nombreux bénévoles déclarés sur la plateforme Bénévoles Covid PF. Si seulement quelques dizaines de masques solidaires ont pour le moment été distribués, leur rythme pourrait continuer d'augmenter dans les semaines à venir.
Au départ, on était toutes les deux avec Céline. Là, on commence à former une grande équipe de bénévoles, que ce soit en termes de logistique. On a aussi énormément de couturières bénévoles qui se sont associées à notre cause. Et on se sent soutenu dans notre projet et c'est ça qui nous donne la force de continuer.
On s'est rendu compte que nos couturières, beaucoup d'entre elles sont soignantes et les soignantes viennent aussi pour délivrer le message de santé publique au moment de la distribution des masques. Donc hier, nous avions deux kinés, une orthophoniste, deux infirmières, une médecin. Il y a une solidarité de la corporation soignante.
Pour les deux soignantes, les masques seront utiles dans l'après-confinement. Par ailleurs, en complément aux gestes barrières, le masque en tissu contribue bien à limiter la transmission du coronavirus comme d'autres maladies.
Lorsque l'on délivre un masque en tissu à nos bénéficiaires, on leur rappelle l'ensemble des gestes barrières. Le masque ne fait pas tout, il faut continuer à se laver les mains, à respecter la distanciation sociale et à utiliser des mouchoirs à usage unique. Il faut vraiment voir le port du masque en tissu d'une manière altruiste. Lorsqu'on porte un masque en tissu, on ne le porte pas pour se protéger soi-même, on le porte pour protéger les autres, puisque on empêche la projection de nos postillons. Ça pourrait changer nos façons de faire lorsqu'on est malade et apprendre à nous protéger de manière plus automatique.
L'épidémie du coronavirus pourrait d'ailleurs faire entrer le port du masque dans la culture mondiale. Ça peut devenir un geste citoyen, note Céline Béguet, ou au moins servir lors de prochaines épidémies.
30 logements du cercle interarmé mis à disposition du pays.
Dans le cadre de l'opération Résilience, le commandant des forces armées en Polynésie française a été sollicité par le haut-commissaire pour mettre des logements à la disposition du ministère de la Santé. Objectif, placer en confinement strict des personnes à risque ou testées positives au Covid-19. Et des personnes qui ne présentent toutefois pas de symptômes pathologiques graves. Donc, au total, 24 personnes et 6 couples avec un enfant peuvent être accueillis dans 30 logements situés dans l'enceinte du cercle mixte interarmé à Pierre. La sécurité du site est assurée par les forces de l'ordre en liaison avec le personnel militaire. Et les services de la Polynésie veillent à la surveillance sanitaire et au ravitaillement des personnes hébergées. Le haut-commissaire Dominique Serin s'est rendu hier sur place.
Et un point justice avec l'affaire Saranoï. Tané Hopou écope de 5 ans ferme en appel.
Souvenez-vous, Tané Hopou avait été condamné en première instance à 4 ans ferme et à la confiscation de tous ses biens immobiliers et des sommes d'argent retrouvées sur ses comptes et à son domicile pour son implication dans le trafic d'ICE dans l'affaire Saranoï. L'homme avait fait appel le 12 mars dernier pour obtenir une réduction de sa peine. Le délibéré est tombé hier. Tané Hopou a vu sa peine s'alourdir d'un an, soit au total 5 ans de prison ferme avec la confiscation des sommes d'argent. Concernant ses biens immobiliers saisis, ceux-ci lui seront restitués. Quant à Thomas Buchin, autre protagoniste de cette affaire, avait lui aussi fait appel. S'il acceptait sa peine de 5 ans ferme, il contestait toutefois la saisie d'un véhicule appartenant à son père. Un véhicule dont la justice soupçonnait qu'il était utilisé par Buchin pour se livrer au trafic d'ICE. Là aussi, la cour en a ordonné la restitution. Voilà, il est 7h et bientôt 40 minutes. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal qui a été préparé par la rédaction de Radio 1 et de Thierry FM.